Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi pour suivre l'essentiel de l'actualité. Je suis Gisèle Cage et voici le fait marquant de ce jour. Reconnaissance historique à l'Assemblée nationale. Les députés adoptent une recommandation proclamant le génocide commis dans l'est de la RDC en violation du droit international humanitaire. Lubumbashi saisit des marchandises dans des dépôts insalubres. Le maire intérimaire lance une opération au coup de poing contre les commerces informels et l'insalubrité dans les zones de stockage souterraines. À suivre dans quelques instants, Jean-Pierre Kamwabou, vice-président de la FENAPEC Kasaï Central, nous éclaire sur la stabilité des prix sur le marché malgré la montée du franc congolais. Restez à l'écoute, son entretien avec André Katende nous apporte des éléments clés pour comprendre les réalités économiques du moment. D'abord, cette information, cette Kikuni interpellée à son arrivée à Kinshasa ce samedi matin, peu avant 10h, l'opposant politique et ancien candidat à la présidence a été arrêté à l'aéroport international de Njili dès son retour de Nairobi. Il y a participé à la création du mouvement d'opposition Sauvons la RDC initié par Joseph Kabila. Son collectif d'avocats dénonce une arrestation arbitraire. Maître Ramazani Chabani, l'un de ses avocats, appelle à sa libération immédiate. Il s'exprime au téléphone de Ronelli Timbonera.
Nous, en tant que le collectif d'avocats, nous estimons que cette arrestation est irrégulière et semble être arbitraire, dès lors que la Constitution garantit que toute personne arrêtée doit être informée du motif de son arrestation au moment de son arrestation et qu'il doit avoir accès à sa famille et à ses avocats. Ce n'est pas le cas pour lui. Nous pensons que sa famille ainsi que toute la communauté a le droit de savoir où est-ce qu'il a été porté pour que tous les besoins nécessaires, tous les besoins qui tournent du soir. Ce que la famille demande, c'est sa libération sans condition, que ce soit sa famille politique, que ce soit sa famille biologique.
À noter que cette Kikuni a été conduite vers une destination inconnue par le service de sécurité. Après la confiscation de son passeport par la Direction générale des migrations, les autorités congolaises n'ont pour l'instant pas communiqué officiellement sur les raisons de cette interpellation. Nous poursuivons ce journal avec une actualité marquante. Une décision historique vient d'être prise. L'Assemblée nationale a officiellement reconnu un génocide commis dans l'est de la République démocratique du Congo lors de la plénière de ce vendredi. Les députés ont adopté une recommandation proclamant la reconnaissance du génocide, un crime perpétré contre les populations civiles en violation du droit international humanitaire et des droits humains fondamentaux. Cette reconnaissance fait suite au plaidoyer du gouvernement congolais auprès de la communauté internationale visant à faire reconnaître ces génocides motivés par des intérêts économiques. Les précisions avec Grâce Amouzati, notre permanent au Parlement.
Défendu par le professeur André Mbata, président de la commission politique, administrative et juridique, cette recommandation portant reconnaissance du génocide a été adoptée par les députés nationaux après débat. Ainsi, les élus du peuple demandent au gouvernement notamment la désignation d'un jour pour la commémoration du génocide, l'érection d'un mémorial national du génocide et le lancement d'une campagne de sensibilisation, de mémoire et de justice transitionnelle. Par cette action, l'Assemblée nationale voit l'urgence et la nécessité de poser un acte historique et moral de reconnaissance nationale avec une dimension internationale. Le professeur André Mbata explique.
Dans une recommandation, nous ne légiférons pas. Le mot génocide n'est pas étranger à notre ordre juridique interne parce que le terme a déjà été repris dans la loi de 2022. Nous voulons seulement dire au monde entier que le génocide est proclamé, nous reconnaissons solennellement. Le reste, est-ce que la communauté internationale va nous suivre ou pas? C'est à nous de nous battre pour que la communauté internationale puisse reconnaître ce que nous disons.
Entré en vigueur dès ce vendredi 17 octobre, jour de son adoption, ce texte sera transmis au président de la République, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, à la Cour pénale internationale et au secrétaire général des Nations Unies, précise la chambre basse du Parlement.
Renforcer la cohésion nationale à travers les accords de paix, c'est l'une des principales recommandations issues du Forum national sur les enjeux socio-économiques des accords de paix en RDC. Pendant 2 jours, les participants réunis à Kinshasa ont échangé sur le rôle des accords miniers comme levier de développement tant pour le pays que pour la région de Grand Lac. Le forum a permis de recueillir les contributions des structures de la société civile et des ministères sectoriels. Maître Patient Bachombe, modérateur principal du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, revient sur les conclusions de ces assises. Il est au micro de Blaise Shindani Kambala.
Unis autour de nos engagements partagés aujourd'hui et des actions que nous venons à peine de valider. Les résolutions issues de ce forum traceront une feuille de route concrète avec la mise en place de ce que nous appelons une comité de veille citoyenne chargée de suivre l'application des recommandations et d'assurer la continuité de notre engagement collectif. Nous quittons cette salle avec un cœur rempli d'espérance et la tête pleine de conviction que le Congo peut et doit se relever. Par la rigueur de ses institutions, la justice et sa gouvernance et la force de nous, les citoyens. Puisse les fruits de nos échanges inspirer les décideurs, renforcer la cohésion nationale et contribuer à l'émergence d'un Congo réconcilié, prospère et souverain. Merci à toutes et à tous pour votre présence, votre engagement et votre patriotisme.
Ce forum, organisé avec l'appui financier de la coopération allemande GIZ, a rassemblé plusieurs organisations de la société civile venues de différentes provinces du pays. Relance de la filière rizicole à Bumba. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, s'est entretenu vendredi avec les opérateurs économiques de la province de Mbongala. Au cœur des échanges, la relance des activités rizières à grande échelle dans cette région agricole. Les acteurs économiques ont profité de cette rencontre pour exposer les difficultés qui freinent le développement de leurs activités. Les détails avec Blaise. Makassi.
La délégation qui a échangé avec Daniel Moukoko comptait les membres de la Fédération des Unions des Producteurs Agricoles, de la Fédération des Entreprises du Congo, de la Société Civile, ainsi que le représentant de l'ONATRA du territoire de Bumba. Le programme national de riz, la SOCAM, CDI Boamanda, pour ne citer que cela, ne fonctionne plus. L'un des riziculteurs revient sur les difficultés que rencontre leur association.
L'accompagnement, nous sommes là pour accompagner le gouvernement parce que on ne peut pas parler de l'économie sans opérateur économique. Nous sommes le numéro 1 pour accompagner notre gouvernement par rapport aux promesses faites par le ministre, notre parent direct. Et nous espérons que nous allons travailler bien avec le gouvernement actuel.
La façon dont il a accepté nos problèmes posés et de pistes de solutions qu'il a données, nous espérons à quelque chose de bon.
S'adressant aux opérateurs économiques, Daniel Moukoko Samba a rappelé que le président de la République insiste sur la nécessité de diversifier l'économie nationale. À cet égard, le gouvernement dispose des moyens nécessaires pour relancer la filière du riz à Bumba. Avant ces échanges, le ministre de l'économie nationale a visité les installations du programme national riz de la société commerciale de la Mongala ainsi que plusieurs champs rizicoles paysans.
Renforcer les liens économiques entre la RDC et l'Ouganda, c'est l'appel lancé par le gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Kakule Somo, à l'ouverture du forum économique RDC-Ouganda, tenu vendredi dans la ville commerciale de Butembo. Cette rencontre vise à dynamiser les échanges commerciaux et encourager les investissements transfrontaliers entre les deux pays. On écoute le gouverneur dans cet extrait proposé par Martial Papimukeba.
La connexion d'affaires entre les entreprises, entre les femmes et hommes d'affaires de la RDC et de l'Ouganda est une nécessité économique pour le développement du commerce entre nos deux pays. En vous rappelant que la RDC est une terre d'opportunités avec le climat chaud et humide, la disponibilité dans le pays de près de 80 millions d'hectares de terres arables, la disponibilité de 4 millions d'hectares de terres irrigables, une végétation qui peut supporter un élevage d'environ 40 millions de têtes de gros bétail, la densité halieutique estimée à 700 000 tonnes de poissons par an, un potentiel hydroélectrique de 100 000 mégawatts, une population constituant un vaste marché de plus de 100 millions de consommateurs, et enfin, Environ 60% de la population est constituée de jeunes, garantissant ainsi une main-d'œuvre abondante et disponible.
Plusieurs opérateurs économiques et chefs d'entreprise venus de la RDC de l'Ouganda participent à ce forum qui s'achève ce soir par la publication d'un communiqué final conjoint. Sud Kivu, inquiétude après la fermeture du site minier des Luhihi, près de 2 mois après la décision de fermeture prise par le responsable du M23. De voix s'élèvent pour dénoncer ses conséquences sur les communautés locales. Des élus et des structures encadrant les créateurs artisanaux dressent un tableau préoccupant marqué par une détérioration des conditions économiques des ménages. René Lintimbonera nous en dit plus.
Contre-productive et suicidaire, tels sont les mots employés par la députée Béatrice Nambano pour qualifier cette mesure qu'elle juge unilatérale. Elle établit une corrélation entre cette décision et la montée des cas de criminalité dans cette zone.
L'interruption brutalement de cette activité a aggravé la souffrance de la population en perte de l'espoir. Cet arrêt minier encadre plusieurs familles et les protéger contre les pillages et toutes sortes de l'insécurité liées au banditisme. Je condamne cette agression de plus.
Pour la synergie des opérateurs économiques et ressortissants de l'Omera Luhihi, cette mesure qui a mis au chômage plus de 30 000 personnes au Sud Kivu et dans les environs mérite d'être simplement levée. Selon elle, la pauvreté s'est accentuée dans ces villages et au-delà, suite à cette mesure de fermeture du site. Renchérit également le vice-président de l'hosté civile du site Kivu, Sami Kitambila.
Il y a aussi des maladies qu'on est en train de voir. Les gens sont en train de subir les dépressions, les maladies cardiovasculaires, les AVC à cause de ces pertes énormes de leurs marchandises.
Le 30 août 2025, le responsable du M23 avait interdit l'accès au site des Luhihi à la suite des événements survenus le 29 août lorsque leur bureau avait été saccagé par des gens civiques, un incident suivi des pertes en vie humaine.
À Manono, dans la province du Tanganyika, une taxe controversée suspendue. L'administrateur du territoire Cyprien Kitanga a annoncé ce vendredi sur Radio Okapi la suspension de la taxe dite assistance jusqu'à perçue par des agents de l'ANR et de l'état-major des renseignements militaires des FARDC ex-DEMIAP sur les camions transportant des minerais comme les coltans et la cassitérite. Selon lui, cette perception est illégale et dépourvue de fondement juridique. Une pratique qui, selon l'autorité territoriale, freine les investissements dans la région. Cyprien Kitanga s'exprime au micro de Paulin Munanga.
C'est par rapport à la perception illégale des taxes créées, fabriquées par les agents de renseignement ANR en cycle et ceux du service de la DEMIAP à Manono. Ils se sont fabriqués une taxe appelée assistance. Ça n'a pas de soubassement juridique. C'est ainsi qu'à l'issue de la réunion, nous venons de suspendre les deux taxes-là. Chaque camion qui charge au niveau de Manono, il doit payer la fiche auprès de l'ANR appelée assistance de $100 ainsi que la DEMIAP pour $50 à $10. Alors, à l'issue de la réunion qu'on a tenue avec les opérateurs économiques et miniers, tout celui qui aurait contraire à la présente décision, il serait poursuivi pour une rébellion. Nous appelons aux gens de l'ordre, aux gens de la DEMIAP, aux gens de la ANR qui sont ciblés par cette décision de pouvoir respecter la décision que nous venons de prendre après analyse. Alors, nous devons encourager en tant que l'État les investisseurs et les états libres au lieu de tracasser avec quelque chose qui n'a pas de soubassement juridique.
À Lubumbashi, une opération coup de poing contre l'insalubrité commerciale. Le maire intérimaire de la ville a ordonné ce jeudi la saisie d'une importante quantité des marchandises appartenant à des vendeurs à la sauvette. Ces produits étaient entreposés dans des dépôts souterrains, dans des conditions sanitaires préoccupantes. L'autorité urbaine a effectué une descente surprise sur les lieux. Le point avec Paul Amunanga.
Parmi les marchandises qui sont exposées dans des caves au centre-ville commercial de Lubumbashi, on y trouve des légumes, des habits, des tomates, des oignons, des bananes, des pommes de terre, des pastèques, des biscuits et tant d'autres. Il y a aussi une trentaine de congélateurs dans lesquels sont conservées toutes sortes de boissons. La décente surprise du maire de Lubumbashi à l'intérim en ces lieux a mis à nu une cachette de marchandises qui serait destinée à la vente à la sauvette. Une pratique pourtant interdite à Lubumbashi et qui alimente les désordres au centre-ville. Séance tenante, Patrick Kafouimbi a ordonné la saisie de ces marchandises. Raison évoquée, ces produits destinés à la consommation humaine dont des denrées alimentaires périssables sont exposés dans un environnement insalubre faisant craindre l'apparition des maladies, explique une source sur place. Il y a même des poissons qui ont été trouvés dans des toilettes, à en croire des témoins. Plusieurs véhicules ont évacué ces marchandises. Les propriétaires des marchandises dénoncent cette saisie et regrettent la perte de leurs produits. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Vers une cinquième langue nationale en RDC, le ministre en charge des personnes vivant avec handicap plaide pour la reconnaissance officielle de la langue des signes comme cinquième langue nationale aux côtés du Lingala, Swahili, Kikongo et Chiluba. Cette demande a été réitérée ce vendredi à Kinshasa à l'occasion de la clôture de la Semaine internationale des sourds et de la Journée internationale de la langue des signes 2025. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Au nom de la ministre des personnes vivant avec handicap empêché, son directeur de cabinet, Dieudonné Diamba, souligne que la langue des signes constitue un droit fondamental et s'inscrit dans la vision inclusive du président de la République. Il explique que cette vision est matérialisée par la ministre Irène Essambo avec l'initiation de la rédaction du dictionnaire en langue des signes congolaise reconnu par la loi organique numéro 22 à l'article 44, alinéa 5. Les participants à cette cérémonie ont salué les avancées obtenues notamment la création de l'Académie de développement de la langue des signes, tout en plaidant pour un meilleur accès à l'information via des médias accompagnés d'interprètes. Des personnes sourdes encouragent également l'État à mener des campagnes de vulgarisation et de promotion de leur langue à travers tous les pays en vue de leur faciliter l'inclusion sociale. Cette semaine internationale des sourds s'est clôturée sur un message d'espoir, celui de faire de la langue congolaise des signes un véritable levier de dignité, d'égalité et de citoyenneté pour les personnes sourdes.
Actualité internationale.
Côte d'Ivoire, les ministères de l'Intérieur et de la Défense ont annoncé via un arrêté publié vendredi soir l'interdiction des meetings et manifestations politiques pendant 2 mois, sauf celles liées à la campagne présidentielle en cours. Ces décisions ont fait suite aux violences survenues à Abidjan et à l'intérieur du pays, ayant conduit à plus de 700 interpellations et une cinquantaine de condamnations à des peines de prison ferme. Le gouvernement justifie cette mesure par le caractère subversif de certaines manifestations depuis le 11 octobre visant, selon lui, à perturber le processus électoral. Mais cette interdiction suscite des vives critiques. Les députés Simon Do du PDCI y voient une tentative de museler la société civile, tandis que la Ligue ivoirienne de droits de l'homme Lido alerte sur les risques des radicalisations. Le ministre de la Justice rappelle que ces arrêtés peuvent être contestés devant le Conseil d'État.
L'invité.
Pourquoi les prix ne baissent pas malgré la hausse du franc congolais? C'est la question au cœur de notre entretien avec Jean-Pierre Kamwabou, vice-président de la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC, pour le Kasaï central. Il revient sur le facteur qui explique la stabilité, voire la hausse des prix des denrées alimentaires et autres produits sur le marché, malgré l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. Suivez son échange avec André Katende Ngalamoulomé.
Monsieur Jean-Pierre Kamwabou, bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes.
La dépréciation des dollars par rapport à la monnaie congolaise, les francs congolais bien sûr, s'observe sur le marché depuis un temps. Les opérateurs économiques que vous êtes, comment vous vous sentez avec cette situation?
Non, nous sommes très à l'aise et très heureux. Vous savez, au niveau du secteur privé, quand il y a baisse, quand notre monnaie prend de la valeur, c'est un avantage pour nous. Nous sommes en train de vendre en toute sécurité. Quand vous vendez et que vous êtes sûr qu'il y a accessibilité aux devises étrangères, c'est un ouf de soulagement pour les opérateurs économiques. Nos ventes sont sécurisées. Et au-delà de ça, il faut aussi ajouter, avec cette situation, il y a aussi amélioration du pouvoir d'achat. Quand il y a pouvoir d'achat, nous, ça nous avantage parce qu'il y aura rotation. Dès qu'il y aura rotation, même les opérateurs économiques gagnent en cela, la population se retrouve et aussi l'État congolais se retrouve. Voilà pourquoi nous, au niveau du secteur privé, nous avons salué vivement cette gymnastique.
Malgré la baisse du taux des dollars sur le marché, on constate que les prix des denrées alimentaires et d'autres produits n'ont pas suivi les rythmes de ces changements. Qu'est-ce qui a causé cela?
Oui, messieurs les journalistes, il est à noter que le secteur privé a été victime de beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a eu des époques où on pouvait connaître cette baisse. Deux, trois jours après, c'est la hausse, plus même là où vous étiez. C'est ce qu'au niveau du secteur privé, nous sommes en train d'agir avec beaucoup de prudence. Mais ce qui est à saluer et à noter, que aujourd'hui, ce n'est plus la spéculation. Il faut noter que aujourd'hui, les taux sont dictés par la Banque centrale. C'est ça, les taux qui est respecté. Nous, au niveau du secteur privé, nous sommes très optimistes. Nous savons que si la lire continue d'ici trois semaines, un mois, vous allez voir qu'il y aura vraiment la baisse au niveau de tous les prix. Connaissant déjà ce qu'on a vécu dans le passé, il fallait d'abord avoir la prudence avant de se jeter dans l'eau. Et je crois, comme aujourd'hui, les taux dictés par la Banque centrale est respecté au niveau des banques commerciales, respecté par les grands fournisseurs, aujourd'hui même par les réseaux de télécommunications, ce qui n'a pas été le cas autrefois. C'est déjà une bonne danse. Ça va aussi être ramené au niveau des détaillants et la population va se retrouver d'un moment à l'autre, parce que l'inconvénient est que si vous gardez vos anciens prix et qu'aujourd'hui on est devant la loi de l'offre et la demande et que les autres ont baissé les prix, vous n'allez pas vendre. La conséquence est que chaque opérateur économique sera obligé d'adapter ses ventes au taux du jour.
Alors, selon vous, qu'est-ce qui doit être fait par le gouvernement central, bien sûr, pour stabiliser les taux des dollars et faire en sorte que ça ne puisse pas encore remonter comme c'était le cas auparavant?
Là, d'abord, nous saluons les efforts de la Banque centrale. Vous savez que le gouverneur, à travers la Banque centrale, ils avaient injecté 50 millions de dollars sur les marchés. Et nous demandons à la Banque centrale de ne pas cesser cette gymnastique. Parce que là, on est devant la loi de l'offre et la demande. Dès lors que les devises vont dominer les marchés, notre monnaie continuera à prendre de la valeur. Mais qu'on ne puisse pas se limiter là-bas. Nous demandons aussi à notre gouvernement d'assurer des mesures de production. Vous savez aujourd'hui que nous avons la tendance de beaucoup importer. Nous devons aussi conjuguer les efforts pour beaucoup plus exporter aussi. Parce que là, on est en train de rafler aussi les devises d'ailleurs pour les ramener ici en créant la balance économique. Je crois avec ces pratiques, si le FPI jouait son rôle convenablement, l'ANAPEX également, notre ministre du Commerce extérieur jouait son rôle avec tout ce qu'ils ont comme arsenal autour d'eux, je crois que notre monnaie peut prendre vraiment de la valeur et le Congo va sortir gagnant.
Un message à lancer aux opérateurs économiques.
Nos opérateurs économiques doivent être optimistes. Aujourd'hui, le gouvernement nous lance de bons signaux. Nous ne voulons pas nous jeter dans la spéculation. Respectons les taux qui sont dictés par et la Banque centrale et nos banques commerciales. Les opérateurs économiques, dès que la monnaie est stable, c'est notre gain. Voilà pourquoi nous devons encourager la Banque centrale, encourager le gouvernement, afin que cette situation puisse encore aller et qu'on puisse constater définitivement la stabilité monétaire.
Monsieur Jean-Pierre Kamwabou, nous rappelons que vous êtes vice-président de la FENAPEC au Kasaï Central et nous vous disons merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Merci à vous, Radio Okapi.
C'était Jean-Pierre Kamwabou. Il s'exprimait sur les raisons de la stabilité de prix sur le marché malgré l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. Il était au micro d'André Katende Ngala Moloumé. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site officiel www.radiokapi.net et nos réseaux sociaux. À très bientôt.